Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je suis pas meilleur que les gens qui sont en place, hein. Moi je suis meilleur que sur le terrain.
Vraiment, c'est très très bon coach, le meilleur coach au monde.
Aucun d'eux ne peut venir dire qu'il a été meilleur que moi. C'est un fait.
Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, je pense qu'il est aussi français.
Et c'est tout juste le plus meilleur joueur du monde aujourd'hui.
Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est meilleur.
RMC, l'afterfoot.
Christophe Plenet.
Avec Florent Gautreau, avec Elton Mokolo, la deuxième heure de l'after, en direct sur RMC, en direct également sur After Foot TV, et en direct bien sûr sur la chaîne YouTube de l'after. On est ensemble encore pendant une heure, on vous attend au 3216, le numéro WhatsApp également de l'after, le 06 12 424 424. On parle à présent du Paris Saint-Germain. On va revenir bien sûr sur la première défaite lors du premier match de préparation hier, 3-0 face à Majorque. Mais l'info du jour, c'est désormais officiel. Le Paris Saint-Germain recrute Marnès Akliouche, le désormais ex-monégasque, qui s'est engagé jusqu'en 2031. Contrat de 5 ans, donc pour 50 millions d'euros. On attendait des recrues officielles hier. En voici une belle.
Exactement, c'est ce qu'on avait évoqué. Le PSG qui ne s'était pas encore lancé officiellement sur le marché des transferts, enfin qui n'avait pas finalisé des joueurs. Et là, le fait d'avoir Akliouche, international français, élément référencé du côté de l'AS Monaco et qui vient de la région. D'ailleurs, le PSG a communiqué sur le fait que voilà, c'était un retour entre guillemets aux sources. C'est très bien parce que le PSG va s'avancer sur une semaine qui va être très importante entre la Supercoupe d'Europe et le Trophée des Champions contre Lens. Supercoupe d'Europe contre Aston Villa.
Flo. Mon micro. Ouais, non, c'est clair que c'est important. On disait hier, parce que tu disais, effectivement, rien n'est signé. Est-ce que c'est un mauvais signe, entre guillemets? Vu les pistes, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais signe pour l'instant. Ce qu'on disait hier avec David, il y a plutôt des bons signes. Donc là, effectivement, l'officialisation, elle est importante. Elle est même presque symbolique par rapport à l'hommage d'hier. On se dit, bon, ça, de toute façon, ça va pas pouvoir le faire très longtemps. Et on a bien compris qu'il allait falloir remettre quand même une vraie équipe le plus vite possible. Comme tu as dit, les échéances arrivent. Et là, ils ont quand même, en plus, avant l'échéance officielle, ils ont Manchester United. Tu vois, Manchester United, ça a l'air de rien, mais le 3-0 d'hier, il n'a pas d'intérêt quelque part. Enfin, on pourra en reparler, mais en tout cas, Manchester United, par exemple, si tu prends, je dis n'importe quoi, tu prends 5-0 contre Manchester, de toute façon, c'est pas la même chose. Il n'y aura pas la même analyse parce que tu ne peux pas faire ça quand tu es le Paris Saint-Germain.
Justement, comment expliquer cette défaite hier, donc 3-0 du Paris Saint-Germain face à Majorque, supporters parisiens? N'hésitez pas à composer le 32-16, hein, et à nous appeler pour pondérer tout cela quand même. Moi j'ai noté qu'il n'y avait que Safonov et Guevara, titulaires indiscutables, qui ont démarré cette rencontre. Après, tu l'as dit, Manchester United samedi pour le deuxième match amical, Salzbourg le 12 août pour la Supercoupe face à Aston Villa, Bollard 4 jours plus tard pour le Trophée des Champions, première journée, on en a parlé également hier, Rennes, puis Lille, Monaco, Brest, et le classique déplacement au Vélodrome lors de la cinquième journée. Donc, mais comment expliquer cette première défaite hier?
Moi je vais te dire d'abord le résultat n'a pas un grand intérêt parce que franchement
tu t'en cognes.
Enfin je m'en cogne pas parce que je vais te dire pourquoi. Je trouve que contrairement à l'an dernier, en fait le PSG fait une prépa. Alors certes les mondialistes sont parvenus, mais encore que je dis sont parvenus,
ouais,
je crois qu'ils sont à l'entraînement, mais
ils sont quasi tous
à l'entraînement, ils sont déjà revenus, c'est pas tout à fait pareil. Et ce que je veux dire, c'est que l'an dernier ils ont commencé, ils sont allés, c'était la Supercoupe d'Europe, ils y sont allés sans prépa. Ouais. Donc un peu miraculeusement, ça s'est bien passé. Puis après, voilà, on sait que ça a été compliqué. Et ils ont fait leur prépa avec la Ligue 1. Si tu veux, il a commencé à faire tourner. C'était un peu particulier. Là, la prépa, elle ressemble plus quand même à une vraie prépa. C'est-à-dire que les gars s'entraînent, ils les font rentrer tard parce qu'évidemment ceux qui ont joué, notamment les Français, tardivement, ou Fabien Ruiz, ils vont revenir un peu plus tard. Mais hier, là, tu te retrouves avec le premier match de prépa avec des gars qui n'avaient jamais joué avec le groupe pro. C'est quand même ça la réalité. Et en face, t'as une équipe certes qui descend en Liga, en deuxième division, mais qui est une vraie équipe, qui a déjà 4 matchs de prépa de mémoire,
qu'ils reprennent la semaine prochaine aussi.
Donc en fait, si tu veux, non, c'est pas que c'est pas important, il y a sans doute des choses à analyser, mais cette équipe, elle est hybride. C'est-à-dire en termes de complémentarité, la charnière centrale. Bon, je ne vais pas accabler Zabarnik, j'ai déjà accablé de la saison dernière, sur ce match-là en particulier. Donc là, c'est pour ça que je veux dire.
Tu l'accables un peu quand même.
Non, mais moi, je pense qu'il a.
Tu ne peux pas t'en empêcher, en fait.
Je pense qu'il a des défauts. Je ne sais pas. En gros, ma question sur lui, c'est est-ce que tu as des défauts qui ressortent on va dire, parce que tu gravis une marche qui est celle d'un grand club européen et que tu n'arrives pas à la gravir en mode chevalier, Lucas Chevalier, et que tu peux en fait reprendre tes qualités, reprendre tes esprits et y arriver. Moi, je veux bien. Moi, je constate que Zabarni, depuis le début, j'ai pas vu de progression sur des points importants qui sont de la vitesse, qui sont la façon de défendre avec les bras dans la surface, c'est plutôt ça qui me gêne. Maintenant, je te dis, je vais pas l'accabler sur le match d'hier. Hier, il y a trop de changements et trop de jeunes joueurs et trop de joueurs.
Il y a même un 2010, je crois.
Ouais. Donc, le match hier, il est effectivement pas très important. Ouais, ce qui est plus important pour le Paris Saint-Germain, c'est même pas tant le match de samedi. C'est le fait qu'ils peuvent se faire une prépa un tout petit peu quand même un peu plus conséquente que l'an dernier et d'essayer d'après d'arriver sur les matchs à enjeu. On a dit hier au moins le 12 août déjà, là oui t'as un vrai match pour un trophée en tout cas.
Elton, t'es d'accord? Pas de conséquences?
En fait, pour moi, il y a un contexte à mettre en avant. C'est effectivement Majorque qui est descendu en deuxième division. Ça avait aussi vocation à être un match où, en gros, ils allaient dire que c'était, entre guillemets, le début de la saison rédemption. Parce que, en fait, c'est inexplicable que Majorque soit redescendu. Et quand on voit la qualité du 11 au départ, il y a quand même Virgili, il y a Sergi Darder qui est passé par l'Olympique Lyonnais. Donc, autant d'individualités qui sont quand même très intéressantes. Et donc, forcément, il y a Tenas qui était gardien dans les buts de Majorque. Autant de joueurs qui ont mis en avant les défauts entre guillemets ponctuels du PSG, parce que c'est un PSG où on voit la plupart des jeunes ils sortent du lycée tout au mieux, et donc forcément c'était compliqué. Quand bien même il y avait quand même un milieu de terrain, on avait du Beraldo, on avait Ceni Mayulu en tant que capitaine ouais. Et on avait du Drô Fernandez, et donc forcément je pense que c'est davantage vers la fin de la première période où ça a été beaucoup plus compliqué après le 1-0. Pour moi le point de bascule c'est le 2-0, le raté de Zabarni qui se ponctue avec le but de Virgili, et derrière on sait très bien que le match est terminé et que va y avoir une vague de remplacement avec une équipe qui est encore plus faible que celle qui a commencé, déjà que c'était pas fameux. Mais moi j'ai sentiment que le PSG 2026-2027 commence à Göteborg samedi contre Manchester United.
Ouais, après on avait le match hein, en fond hier lors de l'émission avec toi Flo et avec David. Moi j'ai vu quelques plans sur le visage de l'Asturien Luis Enrique qui était pas forcément très satisfait quand même de la performance de ses jeunes joueurs. C'est vrai, hein, je le disais tout à l'heure, il faut pondérer cette défaite. Hein. Seul Safonov et Guevara ont démarré, eux qui sont titulaires indiscutables. Mais t'es quand même le Paris Saint-Germain, t'es champion de France en titre, après, t'es double champion d'Europe en titre, t'as une étiquette désormais, t'as un statut à défendre. Ça fait pas un petit peu désordre de se faire taper 3-0 par Mallorca?
Je pense que dans son esprit, t'as raison, ça fait désordre. Parce que lui, l'équipe qu'il a mise en place, les consignes qu'il a données à ses joueurs, il a pu estimer et dû penser que, comme tout match de foot, tu peux le gagner, tu peux aller titiller Mallorca sur un match comme ça, il y a pas de souci. Donc effectivement, lui, il est sans doute mécontent. Deuxièmement, c'est vrai que je le disais hier, ces matchs, ils ont de l'importance pour, alors, j'allais dire la rotation ou la deuxième rotation, parce que là, t'es quand même parti sur un troisième rideau. Et là, ce titre, là où t'as raison, c'est que t'as des joueurs peut-être qui ont perdu des points. T'as des joueurs qui n'ont sans doute pas, tu vois, été suffisamment à la hauteur. Je regardais un peu, notamment le milieu, effectivement, t'as raison, parce que ça ressemblait un peu à quelque chose. C'est et Drô Fernandez, par exemple. Parce que là, on n'est pas dans le cas d'un gamin, tout à fait, on est dans le cas d'un très jeune, mais.
Il a déjà une saison après dans les jambes.
Voilà, il a une saison, et puis avec l'effectif, à l'entraînement et des entrées en jeu. Et ben là, j'ai pas trop non plus effectivement que son match soit terrible. Alors à chaque fois on peut dire dans un match comme ça, est-ce que c'est dû à cette compo totalement inédite qui fait qu'il n'y a pas d'automatisme, si ce n'est qu'il y en a eu sans doute quelques-uns quand même à l'entraînement, ou est-ce que tu te focalises sur effectivement des performances individuelles comme celle, on l'a dit, Zabarni, ou comme celle de Drô Fernandez qui est insuffisante, pour te dire dans l'esprit de Luis Enrique, en tout cas moi je note que certains n'ont pas été suffisamment à la hauteur pour entrer dans la rotation. Donc ça, au moins,
aujourd'hui, il y a un double enjeu pour Luis Enrique. Il y a l'enjeu tactique pour suivre l'évolution de ce PSG sur sa quatrième saison. On rappelle, c'est la première fois qu'il a été aussi longtemps dans un club, mais surtout l'enjeu motivation. Parce que là, je m'attends à ce que Luis Enrique, par rapport au fait que le PSG soit double champion d'Europe, je m'attends à ce qu'il soit un peu plus dans un rôle père fouettard, manière de dire, les gars, c'est pas parce qu'on a gagné deux Ligues des Champions qu'en fait, on a la théorie du ventre rempli et que voilà, c'est terminé. Luis Enrique, là où il va être attendu, c'est sur cette capacité à maintenir un seuil de motivation suffisamment élevé pour que le PSG soit dans cette idée Madrid 2027. Le 5 juin prochain, on doit être en finale de Ligue des Champions, parce que la théorie, elle est facile. À chaque fois que ça va perdre, en gros, c'est pas grave. On a tout gagné avant. Mais c'est là où le danger guette. À savoir que, pour peu qu'il y ait moins de motivation, ça peut impacter l'équipe. Et moi, je fais totalement confiance à Luis Enrique pour être celui qui, de temps en temps, de manière ponctuelle, va dire des vérités à des joueur va agir comme il a pu agir, notamment sur un joueur comme Varaskia, qui à un moment donné était pas bon et il est passé sur le banc. Et le passage sur le banc a été salutaire avec la suite que l'on connaît.
Alors, je rappelle que Marnès Akliouche a signé officiellement pour le Paris Saint-Germain 50 millions d'euros sur le push RMC, d'ailleurs, et sur le papier sur Akliouche. Il est précisé également que Paris serait proche d'un accord, quand même, pour Zion Suzuki, le gardien international japonais de Parme. On parle de 35 millions d'euros.
Safonov. On parle de Mika Gotz aussi, d'ailleurs.
Ouais. Safonov, titulaire première période hier. Lucas Chevalier est rentré à disputer la seconde période. Je ne l'ai pas trouvé, comment dirais-je, pleinement en confiance, complètement irréprochable sur les deux pions qui prend. Moi, je n'étais pas d'accord hier avec vous.
Ça dépend, tu fais référence à qui ? Safonov ou Chevalier ?
Parce que Safonov qui prend deux buts. Hein.
Oui, pardon. Buts. Mais ouais, enfin, ouais. Chevalier en prend, il rentre en seconde période. Moi, je n'étais pas d'accord avec vous hier, toi et David. Je voudrais ton avis, Elton, pour Flo et David. Si Suzuki signe à Paris, c'est pour le prêter immédiatement. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est Lucas Chevalier qui va partir.
Je pense que c'est possible, oui, mais au-delà de ça, moi, je comprends pas forcément la gestion des gardiens du côté du PSG.
Tu prends, t'achètes pas un gardien à 35 millions pour le prêter, non? Enfin, je sais pas.
Ce serait quand même particulier, mais du côté du PSG, moi, en fait, je comprends pas la gestion dans le sens où ça participe à renforcer l'illégitimité de Safonov. Je veux dire, il a gagné de plein droit sa place. Je peux comprendre qu'il a un plafond, il n'y a pas de souci, mais par rapport à ce qu'il a pu montrer, que ce soit en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions, où il a quand même de belles images, alors oui, la concurrence, elle existe. Oui, il ne faut pas, entre guillemets, se reposer sur les lauriers, mais pour autant, l'idée d'avoir un troisième gardien qui, excusez-moi, ça reste un gardien de Parme, qui a possiblement une marge de progression qui est importante, et d'ailleurs, moi, j'ai dit sur la Coupe du Monde, c'est probablement le meilleur japonais, mais il y a un gap. Il y a un delta entre être le gardien de Parme et le gardien titulaire du PSG, double vainqueur de la Ligue des Champions. Et c'est en ce sens que moi, je ne comprends pas forcément la gestion des gardiens, où en fait, tu te crées potentiellement un problème.
Ouais, moi je reconnais que ce qui me gêne là dans tout ça, c'est que moi, je suis partisan de Lucas Chevalier au départ, et je trouve que techniquement, il est supérieur à Safonov. Malheureusement, un, il a pas passé le cap mental, et deux, ça rejaillit maintenant, on va dire, presque sur sa technique. Tu as parlé de confiance.
Hier,
effectivement, je l'ai pas trouvé très en confiance, ou pas à nouveau. Mais néanmoins, dans la discussion qu'il a eue avec le club, il a visiblement demandé à rester pour regagner sa place. Ce que moi, je pense totalement possible, et je pense que l'entourage de Chevalier le pense aussi, par rapport, je parle là vraiment au niveau intrinsèque des gardiens. Mais effectivement, la vraie question, elle est que, comme tout le monde, puisque tout le monde nous dit, ah ouais, vous, qui vous intéressez aux gardiens.
Mais t'as déjà fait signer un gamin de 19 ans en plus.
Ouais, alors ça c'est vrai que là, la gestion, effectivement, elle est particulière parce qu'il est déjà arrivé au PSG, qu'il y a 4 gardiens, comme ça, on va dire, dans la hiérarchie, 4 potentiellement qui pouvaient jouer en équipe première, enfin, avec une rotation sur les deux premiers notamment. Mais. Ce qui me paraît dingue, c'est que effectivement, quand on a critiqué Safonov et qu'on nous a dit ouais, vous avez bien vu qu'il a le niveau, puisque regardez ce qu'il a fait. Oui, il a le niveau, mais il y a des doutes. Si ils vont chercher Suzuki, c'est que oui, on peut avoir des doutes sur Lucas Chevalier. Maintenant, je suis obligé de le reconnaître, puisque le gars mentalement n'a pas réussi à faire le job pour l'instant. Mais Luis Enrique et son staff, ils ont des doutes aussi sur Safonov, comme tu le dis, parce qu'ils vont chercher Suzuki. Donc en fait, ce problème du gardien. Ce qui est quand même dingo, parce que moi je pensais que ça allait être une des raisons pour lesquelles le PSG ferait pas le back-to-back. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as quand même dans un match la possibilité de faire une erreur et de perdre là-dessus. Ça n'est pas arrivé, tant mieux pour le PSG, tant mieux pour Safonov, qui lui à l'inverse mentalement, que je trouve incroyable. Mais donc effectivement, Suzuki, là pour le coup, pour moi, il est du niveau auquel je pensais que Chevalier irait, c'est-à-dire que je pense que lui c'est une bonne pioche. Je pense que Unai Simon c'est une bonne pioche, je pense que Suzuki c'est une bonne pioche, et effectivement
que Safonov. Est-ce que Suzuki va plus vite que Chevalier?
Ouais, Suzuki va peut-être plus vite, mais
pardon,
ça aurait pu être une blague de Flo, ça.
Ouais, c'est vrai, tu m'as volé. J'ai beaucoup réfléchi à la blague sur Suzuki.
Allez,
mais,
on va.
Mais en tout cas, effectivement, la gestion sera pas simple, mais. Quand tu es le Paris Saint-Germain, entre guillemets, par rapport au prix haut, tu peux te permettre ça, en tout cas. Tu peux au moins te le permettre.
Allez, on va accueillir Roger, fidèle auditeur de l'After, qui a composé le 32-16. Salut Roger. Alors apparemment, on dit des bêtises.
Comme d'habitude. Hein.
Salut Roger.
Bonsoir Florian, bonsoir à tous.
C'est accueilli avec bienveillance, de toute façon.
Été, ouais.
Bon Roger, Roger, attends, ça dépend. T'as fait la sieste ou pas, là?
Pourquoi?
Non, parce que après la sieste, t'es toujours plus en forme qu'avant. Donc c'était juste pour savoir.
Je suis toujours en forme.
Ok, ça marche.
Paris, je suis en forme.
Ok.
Bon. J'ai entendu, comme d'habitude, beaucoup de saucisses. Hein. Florent, tu continues à t'enfoncer avec Chevalier, mais tu veux voir les défauts à Zabarni, ok, mais tu vois pas les défauts à Chevalier.
Ah, bah si, il a mis en avant, justement.
Ouais. Non, mais il joue plus, Chevalier.
Il a mis en avant les...
Tu peux pas avoir des défauts quand il joue plus.
Il a mis en avant les problèmes, justement, la mentalité.
Tu voulais, c'est ton poulet, admet qu'il est nul et admet qu'il
est nul. Non, j'admets pas qu'il est nul. Ah non. Non, tu vois, justement, tu devrais au moins souligner que parfois on brûle ce qu'on a adoré, tu sais, dans le foot c'est souvent le cas. Non, moi je maintiens que Chevalier est très fort. Maintenant, si mentalement il ne passe pas ce cap-là, bah ça sera pas un gardien de très haut niveau. Je me serais trompé là-dessus, mais pas sur la qualité technique du gardien. Vas-y, Roger.
Mais ça sera un revo comme d'habitude.
Ah ouais, t'es définitif, Roger.
Je veux revenir sur, j'ai entendu Dro Fernandez, mais laissez le petit Vara, il a été bon hier.
Non,
c'est vrai.
Mais Vara, il a rien fait. Il a fait que de l'échauffement, il a couru, ils étaient bien, c'était tranquille et tout, voilà. Alors, comment on peut demander à un petit qui a à peine 18 ans, 17 ans, pour une préparation, d'être bon?
Oui, mais c'est le moment pour lui de marquer des points, Roger.
Non, en fait, Roger, les enjeux sont pas les mêmes.
Ça, c'est une histoire de journaliste, il marque des points. Attendez les premiers petits matchs de Ligue 1, là, il doit marquer des points, mais pas dans cette équipe d'hier.
Roger, pour moi, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes parce que Dro Fernandez, effectivement, il a 18 ans. Il est arrivé il y a seulement 6-7 mois du côté du PSG. Et dans un secteur qui est très, très, très concurrentiel. Ou même un Zaïre Emery. Luis Enrique t'explique après une finale de Ligue des Champions, c'était injuste qu'il soit remplaçant. Pour te situer le standard qu'il faut pour être titulaire au milieu de terrain du côté du PSG. Et Dro Fernandez, même si t'es pas d'accord, ses fenêtres de tir, c'est ce type de match. Dro Fernandez, quand il arrive au campus du PSG, les premiers entraînements, il doit brûler la rétine. Il doit être très performant pour pouvoir, entre guillemets, pas mettre le doute à Luis Enrique, mais pour pouvoir se dire que sur les matchs où, entre guillemets, il va y avoir de la rotation, ils soient un joueur qui soit totalement valable pour être dans l'11.
Mais ça, c'est toi. Elton, c'est ça, c'est bien ça.
À ce qui paraît, c'est bien moi, oui.
Oui, c'est bien toi. Bon, ok. Ça, c'est ta vision de jeune journaliste. Je dis bien de jeune journaliste.
T'as bien raison d'insister sur le jeune.
Je suis jeune.
C'est pas loin d'être un boomer, désormais.
Insiste sur le jeune.
On est à RMC. Alors, Luis Enrique, s'il prend ce petit-là au Barça, il sait qu'est-ce qu'il attend. C'est pas dans le match d'hier qu'il en fait une conclusion. Toi, tu veux en faire une.
Ah non, j'ai pas fait de conclusion. J'ai même pas parlé de Dro Fernandez.
Oui, mais vous voulez en faire une dans l'émission. J'entends, je suis d'accord avec vous. Allons-y, on fait des top shows. Mais Luis Enrique, il sait ce qu'il attend. Il sait quelle progression il veut avoir.
Ben attends, allez, Roger, t'es inquiet ou pas de ce que t'as vu hier ou pas, ou tu t'en fous? Ok,
on a la réponse.
Tu sais, Florent.
Ah ben on est d'accord. Et alors on est d'accord, Roger. Moi, je suis pas inquiet non plus. Hein.
Moi, mais non. Comme tu dis.
Roger, tu vas pas te lamenter quand même.
Pardon.
Je te l'ai gardé pour toi spécialement.
Ok. Bon, je suis pas inquiet. Et puis.
Non, t'es beaucoup plus inquiet sur Lucas Chevalier, c'est définitif, mais Dro Fernandez, faut le laisser. Il y a quand même un double discours. Hein.
Mais alors là, tu es vraiment un jeune journaliste.
Ouais. Non, réponds à ma question.
Il te fait bégayer, en tous les cas, Roger.
Je te réponds. Alors, Dro Fernandez, il était du centre de formation de Barcelone. Il arrive au mois de décembre. Et Lucas Chevalier, il a joué la Champions League. Il était un pilier de Lille. On va comparer ça. On va faire une différence entre ces deux joueurs.
Non, mais ça reste deux jeunes joueurs aussi.
On n'est plus à Lille. On est au Paris Saint-Germain, double champion d'Europe.
Bah oui.
Il n'a pas sa place pour le moment.
Oui, pour le moment, c'est ce qu'on dit. Okay,
mais pour moi, c'est définitif. Hein. Comme je ne veux jamais l'avenir, il ne faut jamais la faire d'avance. Alors, je dis bien pour le moment, pour me couvrir.
Roger, quel est le premier match qui va t'intéresser? Alors, si j'ai bien compris, les matchs amicaux, tu t'en cognes, hein, si je suis un petit peu trivial. Donc, Manchester United, samedi, tu ne regarderas pas. À Salzbourg, la Super Coupe d'Europe face à Aston Villa, quand même. Oui, est-ce que ce match va trouver grâce à tes yeux?
Oui, c'est bien ce match-là, il va commencer à trouver grâce à mes yeux.
D'accord.
Ok.
Et voilà. Si ça se passe mal, tu nous rappelles?
Pardon?
Si ça se passe mal pour le PSG, pas encore prêt face à Aston Villa, par exemple, tu nous rappelles et tu nous délivreras tes enseignements?
Écoute, et puis je vais te rappeler le 30 mai.
Cinq jours cette année.
Ouais, c'est ça. T'as pas bien noté la date.
Ouais,
30 mai, c'était l'an dernier.
Le 30 mai, t'auras 6 jours d'avance, cela dit. À nous, la finale.
À Madrid.
À la Madrid. Bon, 6 jours à Madrid, ça le fait, Roger.
Et puis, Elton, je sais pas, votre boîte à relire pour tes basses, hein, qu'il s'occupe bien de sa ligue. Avec
comment ça, brosse à relire?
Ah ben, vous
tu reproches quoi?
De quoi?
Tu reproches quoi, Ravir Tebas?
Moi, je n'ai rien à reprocher, je m'en fous de la Liga espagnole. Je suis français. Mais arrêtez de vendre la Liga espagnole, il n'y a que le Barça et le Real.
Attends, Roger, tiens, test. Comment tu ne regardes pas du tout la Liga ou comment tu fais? Tu t'abonnes? Tu vas t'abonner à DAZN? Tu vas faire quoi?
Non, mais pas du tout. Je suis abonné à Canal+, alors j'ai Bing Sport dans le lot. Mais DAZN, non.
Bah donc, tu verras plus la Liga.
Ouais.
Mais je regardais pas la Liga.
Tu verras plus ton joueur préféré, tu verras plus ton ex-joueur préféré, Kylian Mbappé.
Tu penses? Mais tu te moques de moi, là.
je crois un petit peu, Roger, ouais.
Là, j'ai ressenti Mbappé Chevalier, là, je pense que tu vas mal dormir. Ouais.
T'as mis une pièce dans le jukebox et Roger est parti. Bon, immense merci, Roger.
Merci, Roger.
On va passer quelques minutes.
Salut, bien, bye.
Salut, Roger.
C'était top.
Roger, tu reviens le 12, hein.
Pas de problème.
On sera là. L'équipe de l'After sera là. Le Paris Saint-Germain, donc, il y aura quand même un drôle de début de saison. Hein. Je rappelle donc le prochain match amical dès samedi face à United. Le 12 août, en Autriche, à Salzbourg, eh bien, la Super Coupe d'Europe face à Aston Villa. 4 jours plus tard, le Trophée des Champions contre Lens, ce sera à Bollard. Un premier match au Parc face au Stade Rennais, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Derrière Lille, Monaco, Brest et un déplacement au Vélodrome face à l'OM. Alors voilà, il ne faut pas brûler ce qu'on a adoré, mais encore une fois, ce début de saison, il va marquer la tendance de ce que pourrait être la saison 2026.
C'est super de motivation 2027, ce calendrier qui est quand même copieux, parce que tu as évoqué du Aston Villa, du Lens, du Olympique de Marseille, du Rennes, à la différence de la saison dernière où certes tu avais eu Tottenham, mais après derrière tu avais eu un tableau qui avait été un début de calendrier qui avait été relativement tranquille, avec notamment du Nantes, du Angers. Là, cette fois-ci, il faudra une mise à niveau très rapide avec les titulaires, les internationaux qui seront de retour et qui devront être compétitifs pour avoir un mois où tu as potentiellement 2 trophées.
Ouais, avec un mercato qui sera sans doute très actif. Hein. Flo, tu parlais de Mika Götze, le joueur de l'Ajax. Ça chauffe, ouais.
Non, vas-y.
Et le quid de Barcola restera ouais. Pas. Ouais.
Après, tu as quand même, quand tu regardes qui est à l'entraînement, enfin, je pense au match par exemple de Manchester, évidemment plutôt au 12 août, il y en a beaucoup qui étaient en réserve, qui auraient presque, entre guillemets, s'il avait fallu, pu jouer hier. Il n'y a aucun intérêt à les aligner. Je pense à Marquinhos, je crois qu'il est déjà là, il est déjà à l'entraînement.
Les Portugais, Mendes, Vitinha.
Donc là, tu peux très bien, très vite.
Tu vas monter le curseur, 12.
Bah, que si tu mets Vitinha, Neves, même s'il n'y a pas Fabien Ruiz au milieu, Mayulu, que tu fais rentrer Pacho qui est déjà rentré à la 60e hier, Pacho Marquinhos en défense centrale, Mendes sur un côté, enfin tu vois, l'équipe.
Tu mets pas Zabarni en défense centrale?
Non, je le mets dans les buts. À la place de Nicolas Chevalier.
Très bien. Allez, on va marquer une petite pause et on va revenir dans l'after. On va continuer à parler du football parisien, mais on va parler cette fois du PFC, du voisin. Ne bougez pas, l'after revient sur RMC dans un instant.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Christophe Plenet.
accompagné et très bien accompagné par Florent Gautreau et Elton Mokolo. On a parlé du PSG, on va parler du PFC, 11e l'an dernier en Ligue 1, avec 44 points. Le PFC a obtenu ce qu'on appelle un bon maintien, grâce notamment à l'arrivée dans les derniers mois d'Antoine Comboiré sur le banc. Le Canac a pourtant été exfiltré à l'aube de cette saison 2026-2027. Et c'est Liam Rosenior qui est arrivé. Et pour Flo Gautreau, ça va marcher. C'est son avis tranché. Jingle.
Courtepaille, d'ailleurs, il y a un gros dossier. Parce que figure-toi qu'il a failli disparaître. Moi, j'adore. Ouais. J'ai l'appli Courtepaille. C'est au-dessus de tout le reste sur autoroute. La petite salade d'accueil. Les petites grillades. T'as les grillades, tu les vois.
Je suis déjà allé au Courtepaille, connais quand même.
Bon, ben, on veut tous la vie Courtepaille de Flo.
C'est presque ça.
Entrée plat dessert.
Je suis hypé par Courtepaille. Enfin, j'ai été. Et je le suis un peu, effectivement, enfin, par oser. Alors, dire, comme tu le disais, que je vois réussir, ça dépend ce qu'on appelle réussir. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, ayant ressenti, et j'ai regardé un peu ce qu'ils ont fait, et leur stage d'ailleurs dans des installations de dingo, puisqu'ils sont allés dans là où l'Allemagne se prépare, dans le centre Adidas, parce qu'ils ont leur équipementier est Adidas, et dans la fameuse ville où a été fondée, où ont été fondés Puma et Adidas d'ailleurs, et donc un centre incroyable dans lequel ils sont allés s'entraîner. Au passage, ça fait aussi partie dans le fait de voir ce club grandir. Et de
ce que nous a dit Les Milou en interview d'ailleurs, sur la qualité des installations, c'était une première
fois. Ouais, c'est ça, et je crois que les gars ont été complètement hypés. Et hypés aussi d'ailleurs par ce qu'on connaît de Rosenior, hein, c'est-à-dire son management assez original, particulier. Et c'est pour ça que je pense que j'ai bien aimé l'idée, j'en ai parlé ici, Antoine Arnaud était là quand on a fait l'interview, et j'ai plusieurs fois, je suis revenu à charge pour lui dire, et pourtant j'aime beaucoup Antoine Comboiré pour plein de raisons, mais que je ne sentais pas méga convaincu sur l'idée de le conserver pour le projet au global. Et lui il m'a dit bah non, pourquoi vous dites ça. Et puis néanmoins à la fin il avait carrément parlé de Klopp en disant si on va plus loin pourquoi pas Klopp. Et là je me suis dit bon, les jours de Comboiré sont un peu comptés. Et derrière, entre Klopp et Comboiré, effectivement il y a d'autres possibilités, et je trouve que c'est quand même une bonne idée d'être allé sur un coach comme ça, parce que je pense que Rosenior en gros s'est perdu quand il est allé à Chelsea, pour plein de raisons. On l'avait vu d'ailleurs au moment où il est parti, la façon dont il est parti, dans la communication, ce qu'il a dit. Il avait commencé un petit peu à perdre un parti son vestiaire à Strasbourg, mais j'ai plutôt envie de penser que cette expérience-là, cette claque aussi qu'il a prise lui en termes de niveau, parce que en gros j'ai coutume de dire qu'il faut être dimensionné pour un club, et que t'as des coachs qui sont dimensionnés pour certains clubs et pas pour d'autres. Et d'ailleurs je l'avais dit pour Fonseca par rapport à Milan, on va peut-être maintenant se poser la question pour Fonseca par rapport au grand match, mais il y a des questions qui se posent. Et Fonseca, s'il a réussi l'an dernier au début de la saison, c'est aussi parce que c'est un vestiaire entre guillemets plus simple à gérer, qui était plus à son niveau, et qu'il avait dans ce cas-là matière derrière à passer son discours. Rosenior là, avec le Paris FC, avec un vestiaire pareil plus simple quand même à gérer, et un effectif plus simple à gérer que celui de Chelsea en plus, quand tu arrives au milieu de saison, il arrive à l'intersaison dans un club qui a de l'ambition mais qui ne met pas, on va dire, la charrue avant les bœufs, même si on peut le leur reprocher parfois en termes de recrutement, et il arrive avec ses idées, des idées modernes, intéressantes, justement pour ce projet-là. Parce que si le Paris FC veut aller, comme ils le font habilement, pas sur le terrain du PSG, mais sur le terrain d'un futur grand club, ils vont devoir le faire aussi en séduisant, en ayant quelque chose de séduisant sur le jeu et sur la façon de faire. Et ce management moderne, ce qu'il a pu faire avec Strasbourg, je pense qu'il peut le refaire avec le Paris FC, alors que je pense qu'il ne pouvait pas le faire à Chelsea. Donc c'est en ce sens que, je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça va marcher, mais je pense
si,
que...
Si, tu es un mage.
je l'espère. Mais déjà, marcher, ça veut dire aussi quels objectifs tu dois te fixer quand tu es le PFC. Je pense que PSC, à un moment donné, il va falloir qu'ils disent qu'ils veulent être européens. Même si Antoine Arnaud, là aussi, mettait les freins et parlait plus de top 10, de mémoire, dans son discours. En tout cas, Rosenior, ça correspond, je tombe, en termes d'image, de management et même de jeu, puisqu'on sait ce qu'il est capable de faire, ça correspond bien. Et je pense que je crois plus à l'histoire que veut nous raconter le Paris FC avec Rosenior, que je n'ai cru à l'histoire qu'il voulait nous raconter. Alors c'était certes pompier de service avec Comboiré, ou même avant avec Stéphane Gilly, pareil, très bon coach, mais dont on avait dit dans l'after dès le départ, un jour ou l'autre ça va s'arrêter. Ça s'est évidemment arrêté, parce que l'histoire qui est de conserver le gars qui t'a fait monter et les joueurs qui t'ont fait monter, ça ne marche pas. À un moment donné, quand tu es le Paris FC et que tu as ce budget là tu dois voir plus grand. En tout cas, déjà il voit plus moderne, et je pense qu'effectivement ça peut être une bonne belle l'histoire de la Ligue 1 de cette année.
Procureur Mokolo, on vous écoute.
Coupable. Non, mais sinon, je suis d'accord. Ce qui est très important pour moi, c'est le contexte dans lequel Liam Rosenior revient en Ligue 1, parce que la première fois, c'était limite Liam où ?
quand il est arrivé du côté de Strasbourg. Là, il vient réauler quand même de deux expériences avec Strasbourg et surtout Chelsea, où ça s'est mal passé. Mais moi, ce qui m'intéresse du côté de Liam Rosenior, c'est qu'il arrive notamment dans un club qui est en croissance à tous les niveaux. On avait eu Les Melou il y a une semaine qui nous parlait, de la qualité de la préparation, de cette idée de se préparer, notamment dans un cadre qui est quand même propice justement à grandir en tant qu'équipe et même en tant que joueur. Liam Rosenior, pour moi, il arrive du côté du PFC pour être un bâtisseur, pour s'inscrire dans la durée et pas seulement faire de l'opérationnel en se disant quoi ? Voilà, j'ai été viré de Chelsea au mois de mars, je reviens du côté du PFC pour justement faire de l'opérationnel. Si notamment la famille Arnaud a investi notamment en Liam Rosenior, c'est précisément parce que je pense qu'ils avaient une idée derrière la tête de grandir avec cet entraîneur, d'être un entraîneur bâtisseur et de pouvoir être européen avec lui. Donc c'est une mission.
Vous le trouvez charismatique vraiment, Rosenior? Moi je trouve qu'il a un look de prof d'histoire géo quand même.
Ouais, il prend de la place.
Avec ses joueurs, avec ses joueurs, et quand il les prend correctement, parce que je répète qu'à la fin, dans la communication, quand il a commencé à taillader certains de ses joueurs, là, les vestiaires le vivent mal. Mais en revanche, dans le management, il a vraiment un truc particulier. Il est Nora. Et à partir du moment où tu adhères, par exemple, c'était raconté dans ce qu'ils ont fait en Allemagne, si tu les surprenais le matin avec des quiz, avec des choses très différentes, il y a une façon de faire qui fait que, à Strasbourg, ce qui avait été frappant, c'est qu'on avait dit toujours, on avait la vieille ritournelle qui disait qu'il faut un peu de temps pour se mettre en place, un nouveau coach et nouveau. Et lui avait montré que non. En fait, maintenant, t'as une nouvelle race de coach qui te dit non, on n'a pas le temps. Moi, je débarque, je prends toutes les datas, je rencontre les joueurs très vite, je leur dis ce que je veux mettre en place. Et en fait, le jeu de Strasbourg s'était mis en place relativement rapidement. Donc, moi, je pense juste que lui, il est aussi en apprentissage. Donc, en fait, quand tu vas trop vite, trop loin, quand il a répondu aux sirènes de Chelsea en courant, il est parti en courant, il a laissé ses affaires, il a oublié tout.
Est-ce qu'il avait le choix aussi avec la stratégie Bloco, la multipropriété?
Peut-être, mais n'empêche qu'à l'époque, on l'avait quand même souligné. On s'est dit, bon, c'est une fin un peu terrible, à la fois, bien sûr, pour les supporters.
C'est une belle désertion, quand même.
Ouais, et il s'était barré en courant. T'as envie, ok, bon, tout le monde dit, ah, tu peux pas refuser. Ok, mais n'empêche
qu'on a toujours le choix.
Le Rosenior, en tout cas, qu'on avait connu, qui effectivement est arrivé, qu'on ne connaissait pas, comme disait Elton, et qui a été brillant. Là il avait été moins brillant, et puis après derrière il a pris des claques, parce que déjà cet effectif là avec n'importe quel coach, c'est compliqué à gérer. Et donc là je trouve que il revient dans un projet presque plus vertueux que celui de Strasbourg, parce que Strasbourg, il a vu aussi que tous les joueurs de toute façon après derrière comme lui étaient potentiellement pouvaient se barrer, alors que là sur 4-5 ans tu peux te dire que déjà là
t'as un cycle intéressant,
et surtout une partie du travail, du sale boulot a été fait, c'est-à-dire les fameux joueurs qui étaient montés de Ligue 1 en Ligue 1 et qui sont restés un peu trop longtemps, ça y est ils sont partis, les coachs qui essuient les plâtres, Gilly, Comboiré, et Comboiré qui leur a bien sauvé la mise, ils sont partis, et donc t'arrives une situation plus nette, plus propre. Alors pas sans pression, hein, c'est sûr, mais je trouve qu'effectivement, il arrive à un moment, on va dire, comme prévu d'ailleurs, comme on l'avait dit l'an dernier, ils ont perdu du temps. Moi, c'était ce que j'avais fait un avis en disant, le PFC, ils perdent du temps. Alors, ils s'en moquent, hein, ils ont les reins solides, c'est apparemment assumé sur le côté, on veut faire modeste, on veut faire humble, on veut faire discret. N'empêche que oui, t'as perdu du temps, on avait tous dit que Gilly, ça s'arrêterait prématurément, que certains joueurs, ça n'irait pas, que c'était insuffisant. Bon, tu vas être obligé d'envoyer quand même un petit peu plus sur le marché des transferts, et tu pars sur un coach qui, effectivement, en termes de management et de jeu, normalement, doit te proposer quelque chose. Et j'avoue que, si par exemple Antoine Arnaud était venu dans l'after quand il est venu en nous disant notre prochain coach ce sera Liam Rosenior, j'aurais trouvé ça presque plus logique que là il était le cul entre deux chaises en train de dire non Antoine Comboiré, il y a pas de problème, on attend sa réponse, parce que lui-même il avait une problématique de santé, Antoine,
et genou,
une opération
genou,
ouais. et oui, mais pour l'avenir, est-ce que vous pensez vraiment que pour aller jouer la Coupe d'Europe vous serez capable de garder un coach comme, bref, ils étaient embêtés dans la communication sur ce sujet. Je pense que là ils le sont moins, c'est plus aligné, à mon avis c'est intéressant.
Ça joue l'Europe cette année, le PFC, Elton?
Oui, parce qu'on le voit à travers le mercato, et même par rapport à la dynamique de la deuxième partie de saison dernière. Pour moi, le PFC, indépendamment du choix d'entraîneur, doit s'appuyer sur la dynamique de la deuxième partie de saison, où pour moi, j'avais dit, quand il y avait Les Melou qui était présent, on fait un conseil de classe, je mets félicitations sur la deuxième partie de saison. Ta vocation, justement, à t'appuyer là-dessus, avec une dynamique sportive, avec de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Je fais référence à Sinayoko, je fais référence notamment à Zabi, je fais référence évidemment à Pablo Pagis, qui va avoir un rôle très important pour t'appuyer là-dessus. Et dans une Ligue 1 qui structurellement c'est un peu plus compliqué, tu peux justement être une équipe qui peut être européenne, enfin européen, c'est septième par exemple via la conférence.
Je reprends les propos de Roger, notre auditeur, dont voilà, il se moque éperdument des matchs amicaux. La préparation du PFC, un nul 2 partout face à Côme, une courte défaite 1-0 face à Greuther Fürth et un nul 2-2 face à Stuttgart. Il y aura Mayence également et Auxerre, puis Angers, avant une première journée face aux promus troyens, Nice, Marseille, Lyon et Strasbourg, avant la première trêve internationale.
Par contre, il y aura un enjeu pour Liam Rosenior. Moi, j'ai dit, c'est le principal obstacle, c'est notamment dans l'aspect relationnel avec ses joueurs. Liam Rosenior, il connaît le football, mais il faut qu'il connaisse aussi les footballeurs. Et l'année dernière, sur la deuxième partie de saison, ou plutôt sur la première partie de saison, il y a eu notamment des réactions épidermiques par rapport à des jeunes joueurs strasbourgeois. Et il expliquait en conférence de presse que c'était limite, c'était comme ça et rien d'autre. À Chelsea, par contre, ça avait moins collé parce qu'à Chelsea, t'as un vestiaire.
T'as pas le même profil de joueur.
De joueurs expérimentés qui, 6 mois avant, remportaient championnat du monde des clubs, la Conference League, des joueurs qui, derrière, sont devenus champions du monde ou soit allés en finale de Coupe du Monde comme Enzo Fernandez. Et moi, j'ai envie de voir quel Liam Rosenior on va avoir, notamment, quand la défaite, elle devrait être moins sensible.
Et il y a un point important, puisque tu parlais des recrues, Sinayoko Pagis, là on n'est pas tout à fait sur ce qu'il y avait au Paris FC aussi offensivement. On a quand même bien, ils ont quand même bien galéré aussi à ce niveau-là, et on disait oui c'est bien, Jobels, on savait pas ce que ça valait.
Moi je pensais que Crasso ça serait bien meilleur en Ligue 1.
On l'avait déjà vu avant, et tu arrives au plafond. En fait ils se sont mis un truc, ils se sont mis le cul entre deux chaises, ils se sont mis une sorte de projet hybride Ligue 2 Ligue 1, où tu te dis ouais mais peut-être que le gars va passer un cap, peut-être que le revanchard, Jobels va. Ouais, peut-être que, mais toi, tu as les moyens avec le budget que tu as, qui est le 4e ou le 5e, je crois, de la Ligue 1, même si, pareil, les dirigeants de PFC contestent un peu ça. Tu as moyen d'aller plus vite, plus loin, sans faire des folies. Genre Pablo Pagis, ils sont pas allés chercher loin, tout le monde le connaît. Sinayoko, quand même, qui en plus, lui, le pauvre, l'an dernier, il a fait une super saison, alors qu'il aurait pu déjà signer ailleurs, que ce soit Lens, c'est ça, et était sur la tête de Lens et Nice.
Oui, exactement.
Est-ce qu'ils prennent pas le temps de passer les étapes les unes après les autres.
Ouais, mais il y a certaines étapes, tu pouvais deviner ce qui allait se passer. C'est-à-dire que je prends le cas de Gilly, qui est un très bon entraîneur. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas une histoire d'être bon ou mauvais. Bon entraîneur. C'est une histoire de contexte. C'est une histoire. C'est ce que je disais tout à l'heure. T'es dimensionné ou pas pour le faire. Si tu penses, ça peut être le cas, que c'est ton coach, ce bâtisseur, qui va faire tout de A à Z et qui va rester pendant 10 ans, en gros, ça n'existe plus. C'est une histoire, ça, qui est quasi révolue aujourd'hui. Ça a existé, ça. Wenger, il est arrivé à Arsenal à un moment donné, il a tout repris à zéro et il est resté. OK. Puis ça n'existe plus. Donc, dans ce cadre-là, si ça n'existe plus, tu sais que tu as celui qui fait le premier étage de la fusée et que derrière, tu vas devoir réinjecter à la fois des joueurs et un coach pour aller passer le deuxième étage et peut-être même qu'après, dans l'histoire du PFC, et évidemment, même à venir, il y aura un coach après Liam Rosenior parce que le club aura franchi un palier et le coach lui-même aussi. Donc je pense qu'ils ont, après c'est pas un drame, c'est sûr, mais je pense qu'ils ont perdu un peu de temps par rapport
et
on
le
va
temps,
dire
c'est de
ouais c'est de l'argent, mais justement comme ils sont solides là-dessus, je pense qu'effectivement pour eux c'est moins grave et que ils sont en train de rattraper un peu le temps perdu.
J'adore quand tu finis mes phrases, Flo. Avant de parler du Stade Rennais dans la dernière partie de l'after, un petit mot sur Bordeaux dont on parlait tout à l'heure, hein. Je vous annonçais que Rio Mavuba n'est plus l'entraîneur des Girondins. Il y a un push là qui vient de tomber, c'est Foot Amateur confirmé par l'équipe. On attend une confirmation de la rédaction des RMC. Mais le CNOSF aurait décidé de renvoyer le dossier en appel devant la DNCG. C'est donc la Direction nationale de contrôle et de gestion qui décidera si Bordeaux reste en N1 ou est relégué en R1 avec la perte du palmarès.
Donc pas de décision favorable pour l'instant.
En gros, on a l'impression que personne ne va.
Pas de décision tout court.
Personne ne va appuyer sur le bouton.
Ça s'appelle la patate chaude.
Ouais, c'est ça, exactement.
À toi, à moi, à toi. Allez, on en parlera bien sûr de Bordeaux tout au long du week-end, demain et ce week-end si l'information tombe. Une petite respiration et derrière, on parle du Stade Rennais, un club qu'aime beaucoup Florent Gautreau, mais également Elton Mokolo. Ne bougez pas, l'after revient dans un instant.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Christophe Plenet.
Avec Flo Gautreau, avec Elton Mokolo, la dernière ligne droite de l'after, et avec ces deux garçons, autant vous le dire, ça va vite. Très vite, on termine avec le Stade Rennais, 6e l'an dernier. Il qualifie donc pour la Ligue Europa, grâce d'ailleurs au succès de l'ancien finale de la Coupe de France. Le Stade Rennais jouera l'Europe et l'Europa League cette saison. Les deux premiers matchs de préparation ont été cohérents. Victoire 2-1 face à Bruges et nul 3 partout à Istanbul face au Galatasaray. Rennes démarrera le championnat au Parc contre le PSG le 23 août. Mais d'ici là, quel visage aura l'effectif de Francaise. Elton Mokolo a un avis tranché sur la question. Jingle.
Ouais. On doit faire fi de tous les égos. Et ben, on va le faire parce que le plus important, c'est Nantes qui reste en Liga.
Alors, on va faire fi de tous les égos, mon cher Elton. Ton avis sur la question, ces dernières semaines du mois d'août vont être capitales pour la saison du club.
Pour moi, le Stade Rennais, c'est un marronnier chaque été parce que j'aime bien décrypter sa politique sportive, parce que moi, j'aime bien mettre en avant cette phrase d'Arrigo Sacchi. On joue comme on s'entraîne comme on est dirigé. Et les deux étés précédents, un été avec Massara en tant que directeur sportif, il y avait eu énormément de mouvements et moi c'était pas forcément quelque chose qui m'avait plu, ça avait eu un impact sur la saison suivante, une saison qui avait été très compliquée avec du Sampaoli, du Habib Bey qui était présent, il y avait Stéphane au préalable, donc forcément ça va impacter la saison rennaise. Rebeut l'été dernier où il y avait eu un recrutement tardif avec l'arrivée de Désiré et Habib Bey derrière avait été viré, Francaise était revenu, ce qui n'avait pas empêché Rennes d'aller en Ligue Europa. Et maintenant, je suis très content de voir ce début de mercato rennais où là, tout est aligné. C'est-à-dire que voilà, on a une direction sportive stable, on a l'entraîneur qui était voulu et désiré, sans faire de jeu de mots. On a un recrutement qui a été quand même agressif, offensif. Il y a quand même 8 recrues. On a fait des investissements. On l'a évoqué avec Creswell, Mayenda qui était parti chercher du côté de Sunderland. Tout ça, c'est très bien. Maintenant, vient la partie décisive. Rennes a de l'attractivité, pardon. Rennes risque d'être attaqué, notamment à travers des joueurs qui ont une certaine valeur marchande. Et moi, j'ai envie de dire que conserver les joueurs clés du Stade Rennais sera la dernière mission de ce mercato, parce que j'ai beaucoup aimé la prise de position de Francaise, notamment sur les dossiers Esteban Le Poll, Aït Boudlal, où en gros, il n'y a pas de débat à avoir. Rennes, aujourd'hui, ne veut pas vendre, parce que aujourd'hui, dans le contexte Ligue 1, il serait très facile de vendre, parce que une vente, notamment à l'étranger, est beaucoup plus vécue comme un soulagement par rapport aux caisses, plutôt qu'un drame sportif, entre guillemets, parce que tu perds un joueur qui peut être très important. Du côté de Rennes, on peut capitaliser, notamment, sur une force d'attractivité, économique et quand même très importante, avec la famille Pinot. On peut s'inscrire dans la durée. Il y a aussi des perspectives sportives qui sont très importantes. Le retour en Europe via la Ligue Europa. Un entraîneur qui te fait dire qu'aujourd'hui, il y a un projet qui est crédible, un projet où tu peux grandir. Et moi, j'ai envie de voir les joueurs rennais qui sont notamment cités pour être potentiellement attaqués sur les dernières semaines de mercato, s'inscrire dans la durée du côté du Stade Rennais, parce que moi, je pense qu'ils peuvent encore grandir dans cet effectif, dans ce 11 de départ, avant de penser à autre chose, en sachant que Rennes est tout à fait capable de refuser des offres alléchantes ou même de les garder sur un certain temps. Je fais référence, par exemple, à un Jacquet qui avait été certes vendu à Liverpool pour 72 millions d'euros, mais Rennes avait été en capacité de le retenir 6 mois de plus. Donc voilà pourquoi ma mission de fin de mercato pour le Stade Rennais, c'est de conserver ces joueurs clés, parce qu'aujourd'hui, je pense fondamentalement qu'il y a un coup à jouer dans la perspective de la Ligue des Champions.
T'as un club anglais qui arrive, qui met 80 millions sur Le Poll, tu fais quoi?
80 millions et
80 millions, c'est...
Enfin, il partirait.
Il partirait, mais là, c'est 80 millions
c'est
d'euros.
C'est une bonne question,
là,
ça.
C'est une bonne question, mais en dessous, Rennes, je pense qu'ils sont en mesure de pouvoir refuser.
Il y a deux choses pour commencer par ça. Moi, je suis d'accord avec... moi, je suis vraiment ça de très près. C'est vrai que il se passe quelque chose effectivement dans la stabilité. C'est-à-dire que la dernière fois que Rennes a performé, je le dis souvent, mais c'est pas Rennais, hein, c'est global. Alignement président, directeur sportif, entraîneur, c'était Cloarec, Genesio, Maurice. Après, ça dure deux ans, deux ans et demi. Il y a des moments, ça tangue un petit peu vers la fin, puis après, ça explose pour plein de raisons. Mais en tout cas, voilà, il faut cette stabilité-là dans le recrutement. Et tu avais à la fois des résultats et du jeu. C'est-à-dire que tu avais un ADN qui était porté par, à l'époque, Bourigeaud, Terrier, Lovro-Mayer, par exemple, et j'en passe. Et en fait, c'est de ça dont les gens en arène ont envie. C'est pour ça qu'on en revient toujours, et c'est pour le cas, je parlais du Paris FC tout à l'heure, hier on a parlé de Toulouse. Quand tu n'es pas certain de jouer le top 3, parce que tu n'as pas les moyens, enfin, normalement, de jouer ce top 3, sauf exception comme l'a fait Lens, parce que tu ne joues pas de Coupe d'Europe une saison, il y a toujours une équipe surprise. Tu dois, évidemment, jouer la Coupe d'Europe, on va dire dans les 6-7 premiers, mais tu dois aussi donner du plaisir aux gens pour qu'ils remplissent, ce qui est le cas à Rennes d'ailleurs, enfin le stade est plein, pour faire revenir les gens et c'est ce qui s'était passé avec cette génération-là où on disait tiens, les gens disent on va aller au stade, il se passe un truc, tous les samedis se passe un truc. Et là, effectivement, Aize, évidemment, le retour de Aize, pareil, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, le temps perdu sur les entraîneurs. Alors que nous, on disait tout le temps, bon, bah, quand est-ce que Aize va arriver? Il était à Nice, hein. Ouais. Il était installé, entre guillemets, à Nice. Et tout le monde savait que lui, son envie intime, pour plein de raisons, c'était de revenir à Rennes. Bon, ça y est, il y est. Après, bon, évidemment, vu le contexte, il était dans un premier temps, on va dire, là pour stabiliser Rennes. Miraculeusement, quelque part, il récupère l'Europe. Et là, tu as une intersaison, effectivement, normale, classique, avec un boulot qui est fait et des moyens. Parce que quand, enfin, le premier transfert qui se fait, c'est Thomasson. Thomasson, il est arrivé en courant. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a le projet, mais parce qu'à Rennes, il y a des salaires énormes. Enfin, énormes. Je pense qu'ils font un peu plus gaffe, mais quand ils sont allés. Prendre Fofana et Samba, ils vont aligner les zéros. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. Il y a des moyens. Ça permet de sécuriser. Quand tu prends Thomasson comme ta première recrue, tu parles à ton propre effectif, ceux qui sont là, ceux qui veulent rester. Et j'en reviens à Lepaule. J'ai échangé avec plein de gens autour de lui. Mais en fait, Lepaule, il a intimement envie de rester depuis le début. Parce que lui, il sait d'où il vient.
Il a été revalorisé d'ailleurs, il me semble. Ah,
bien sûr. Mais justement, il sait d'où il vient. Il sait qu'il est en pleine progression. Il sait qu'avec elle, cette progression va continuer. Il faut savoir que c'est un joueur qui veut progresser. Qui ne se dit pas, tiens, j'ai sauvé ma carrière. Parce que lui, il revient du diable Vauvert. Ouais. Lepaule, ils étaient en train de. Il était à Épinal, hein, quand même. Hein. Ouais. Donc, lui, il se dit pas, en gros, c'est bon, j'ai sécurisé. Maintenant, j'ai un bon salaire. Ça y est, je suis en Ligue 1, je suis arrivé. Non. Lepaule, il va continuer à travailler. Il travaille et vous regarderez dans son jeu, ça se voit un petit peu parce que c'était un reproche.
Je parlais du 3-3 à Galatasaray, 3 pions. Hein,
alors il marque, ça c'est une chose, mais moi ce qui m'intéresse plus c'est de voir comment il va participer un peu plus au jeu parce que c'était que ce soit un attaquant de surface, que ce soit des meilleurs joueurs de tête, tout ça on le sait. Tu n'auras pas mieux pour couper des centres fuyants devant le but, ok, tout ça on le sait. Alexandre Dujeu m'en avait parlé quand je l'ai rencontré à Angers, il m'a dit à l'entraînement c'est une folie. Mais. Il a des progrès effectués pour devenir un attaquant plus complet. Et ben déjà dans la fin de saison, on le voyait parfois revenir un peu plus. Donc Lepaule va progresser et il veut progresser avec Rennes. Alors évidemment, le foot est le foot, t'as raison. S'il y a un gros truc, peut-être qu'il partira. Mais globalement, il faudrait quand même un gros truc pour qu'il parte. Je serais moins confiant avec Khalid Boudlal pour le coup, pour revenir à tes deux dossiers. Mais côté Lepaule, il y a vraiment cette volonté-là et dans sa, on va dire, stabilité actuelle et dans sa progression actuelle, puisque j'ai entendu les débats qu'il y a dans l'after aussi sur l'équipe de France et j'en avais déjà parlé même moi avant la Coupe du Monde, je trouvais que c'était un profil intéressant, mais peu importe. Bah, en tout cas, oui, les transferts réalisés cet été qui font un milieu de terrain de très très grande qualité. Il y a aussi des concurrences qui sont intéressantes. Merlin, qui n'a pas été très bon, toujours très bon l'an dernier, il est concurrencé par Najida, qui est très bon sur cette préparation côté gauche.
Et que j'avais beaucoup aimé à la Cannes.
Et qui a monté, monte en puissance. Donc ça veut dire que, plus que de savoir qui va être titulaire forcément, c'est la concurrence qu'il va y avoir aussi sur certains postes. Il y a des interrogations toujours quand même, hein, parce qu'il y a Ludo Blas qui est toujours dans les parages et qui a priori va rester. Mais néanmoins, cette équipe-là, évidemment avec un Lepaule qui reste, peut-être d'ailleurs un Altamari qui va partir, c'est aussi une des questions qui se pose. Mais globalement, c'est un bon effectif, c'est une préparation qui était très bonne. Le match, les deux derniers matchs ont été plutôt très bons, à tel point qu'à Rennes, les gens ont envie que le championnat commence. Hein, pour te dire, bon, après, il se trouve qu'il tape le PSG.
Ouais, faut attendre le PSG.
Mais en tout cas, ouais, intersaison intéressante. Attention quand même, parce que à Rennes, on s'enflamme aussi, ça se voit pas, comme à Marseille, mais les gens s'enflamment assez vite aussi. Hein.
On va voir justement si Paul s'enflamme. Paul qui a composé le 32-16 supporter du Stade Rennais. Salut Paul.
Salut Paul.
Bonsoir
à vous. Salut Paul.
Bienvenue dans l'After. Alors, est-ce que la vie d'Elton t'a convaincu et l'analyse de Flo également?
Oui, oui. Après, moi,
c'est un petit oui, ça.
Ouais, c'est un petit oui, parce que moi, je suis nostalgique.
Ah, donc,
il y a deux choses. Il y a.
Attends, avant truc, ils veulent le retour de.
Oui, bah,
Martin Terrier.
Bien, Flo. Bah, oui,
arrête, tout le monde veut le retour de Martin Terrier.
Bah, donc, le mercato, il n'est pas fini.
Il n'est pas fini, ouais.
Vas-y, ouais, Paul. Non, mais bon, après, apparemment, dans ce qui se dit, je ne sais pas si vous serez là pour me contredire, mais s'il y a un club en France où il doit revenir, où il devrait revenir, ça serait plutôt Rennes,
oui.
Dans les dernières infos qui circulent. Ils attendent peut-être aussi un petit peu de départ, parce que là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est aussi de voir des gens partir, parce que autrement, ça va être l'embouteillage. Donc, là, il devrait avoir James. Et Jaoui Cissé qui devrait nous quitter, ce qui est pas plus mal aussi pour leur carrière, je pense, parce que ils auraient plus de temps de jeu. Mais ouais, je suis un peu nostalgique et sur les cadres, il y a cadre et cadre. Aujourd'hui, je suis content pour le Stade Rennais, je suis supporter, mais voilà, moi il me manque un petit peu ce goût où Flo s'enthousiasmait de Rennes il y a quelques saisons. Quand je vois que le numéro 14 est pas gardé pour Bourige, moi ça me fait mal au cœur. Et je pense qu'on devrait s'inspirer du sport américain sur deux, trois trucs.
Alors, c'est un autre dossier, d'ailleurs, le retour aussi. Dans Rennes, le bruit a circulé aussi, hein, du retour de Bourigeaud.
Ouais, bon, ça,
je ne crois pas.
J'avais pas trop ces infos-là, Flo.
Non, c'est pas une info. Non, je te parle des. Non, pour le coup, Terrier, c'est sérieux. Terrier veut quitter l'Allemagne. Et la Ligue 1 fait partie de ses priorités. Et Rennes. C'est crédible, donc là il y a tout est vrai. Bourigeau, c'était plus de l'ordre de la rumeur, effectivement.
Ouais, et puis moi, franchement, je te le dis, ça, non, c'est pas l'info que j'avais. Et pour être très honnête, c'est voilà, quand on parle de cadre aujourd'hui, cadre le pôle, parce que il est très important et qu'il a explosé et qu'on peut s'attacher. Moi aujourd'hui, j'ai pas forcément une attache avec quelqu'un de l'équipe. Donc s'il devait partir, j'aurais pas une petite douleur de supporter vraiment où ça me prendrait aux tripes.
Ouais, donc, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est lié à l'instabilité de l'effectif.
Oui, tout à fait. Mais l'essentiel, c'est là où je rejoignais Faux, excuse-moi, de t'avoir coupé. C'était l'essentiel, c'est d'avoir enfin président, directeur sportif et coach qui sont sur la même longueur d'onde. Ça, dans le sport, dans tous les sports, et notamment dans le foot, quand les trois sont alignés, généralement, on performe. Donc voilà. Après, moi, aujourd'hui, j'ai connu une période où j'étais un peu plus attaché, où il y avait des cadres qui partaient. Ça me faisait quelque chose. Aujourd'hui, à Rennes, on a aussi des sécurités avec l'actionnaire qui peut remplacer des joueurs partants.
Tu sais que le paradoxe, c'est que, en plus, vu ce qui s'est passé quand il est arrivé, c'est que tes cadres aujourd'hui, ça va être Thomasson et Rongier. C'est-à-dire qu'en fait.
J'ai du mal à dire encore, Flo, tu vois.
Bah oui, je comprends bien.
Oui, il faut se rouiller la nuque un peu.
Mais ce qui est fou avec Rongier, c'est qu'il est arrivé, il y a eu des manifs, il y a eu tout. D'ailleurs, Bay avait fait un truc très bien en lui donnant le capitana, ce qui avait accéléré l'intégration. Comme Rongier est un mec formidable et un mec sain et tout ce que tu veux, bah, et puis sur le terrain exemplaire, et qui était limite. Le meneur de jeu par moment du Stade Rennais l'an dernier, ça marche, et qui récupère un autre mec intelligent, stable, fiable au milieu avec Thomasson. Mais ce qui est vrai, c'est que oui, c'est des gars, alors en plus ex-Nantais en l'occurrence, mais qui ne sont pas là depuis longtemps. Mais ça, c'est le foot actuel. C'est vrai que paradoxalement, le pôle en peu de temps, hein, finalement, mais et oui, il a une cote d'amour dingue. Donc c'est pour ça que sur le départ, il y a évidemment à la fois la volonté de le pôle de rester, mais la volonté de l'actionnaire de le garder. C'est-à-dire que quand tu n'es pas contraint à ce point, bah là effectivement il y a des arbitrages qui sont assez faciles à faire. Pour tout dire, entre Aïd Boudlal, que j'aime beaucoup, hein, dont je trouve qu'il a un potentiel incroyable,
il a déclaré qu'il comptait sur lui.
Alors attention, après dans les déclats, on dit c'est bien,
oui,
qu'il dit ça,
bien sûr.
Lui met aussi la pression à ses propres dirigeants.
Ben c'est ça, oui.
Même s'ils sont alignés, t'as toujours aussi une façon de mettre la pression, et peut-être que dans sa tête il se dit je vais peut-être pas gagner sur les deux dossiers non plus, hein, tu vois, c'est comme ça. Mais en tout cas effectivement, ce qui se passe, c'est que t'es dans un cadre où finalement tu avais assez peu d'internationaux, donc t'as pu travailler, puisqu'on parle là des équipes qui n'ont pas leurs équipes type, t'as pu travailler, t'as des bons matchs amicaux, t'as une prépa athlétique notamment, puisque ce que j'ai vu athlétiquement était plutôt pas mal.
C'est ce qui a été mis en avant sur la notion du contre-pressing.
Ouais, alors on verra si tout est bien calculé, entre guillemets, parce que j'ai trouvé dans le match, notamment le dernier match, là, eux étaient très en forme, mais les adversaires pas forcément. Après, bon, il y avait un arbitrage un petit peu particulier aussi sur ce match-là. C'était un match un peu particulier. Bon. Mais bon.
Pas d'arbitrage dans l'after.
Non, c'est vrai. Mais en l'occurrence, parce que c'était pas grave, c'était un match amical, donc moi, ça me gêne pas. Et puis, Rennes a fait quand même un bon match. Mais non, c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, ce qui est marrant pour faire le lien entre les deux sujets qu'on a eu, c'est que PSG Rennes,
bah oui,
c'est pas un cadeau pour a priori pour le PSG. Hein. Alors, c'est pas un cadeau pour Rennes, c'est sûr, de commencer au parc, tout le monde sait que c'est compliqué. Mais un vieux poncif, mais qui peut marcher, vaut mieux quand même peut-être essayer de jouer le PSG là en août que plus
tard. Les Parisiens auront deux matchs officiels dans les jambes quand même. Hein.
Certes, mais voilà. Et pour le PSG, c'est pas un cadeau, quoi.
Paul, t'attends quoi de cette saison des Rennais?
Bah prendre du plaisir, vraiment, pour aller au stade, pour tous les spectateurs qui s'y rendent, et c'est un peu la galère à Rennes pour avoir des places, donc j'espère que le spectacle sera au rendez-vous. Après, pas s'écrouler sur une fin de saison, vraiment, je préfère encore louper rapidement et puis pas revenir, ou tu vois, enfin un scénario qui nous mettrait pas des regrets, plutôt une montée en puissance, qu'on retrouve un petit peu... aussi l'amour avec certains joueurs, et même si j'avais du mal à dire Thomasson et Rongier, et je t'ai passé à l'arrivée de Rongier sur vos antennes, je m'étais fait arracher sur les réseaux parce que les gens ils avaient confondu ce que je disais. Il y a aucun doute là-dessus, c'est deux top joueurs. Donc ça n'a rien à voir avec l'avis de peut-être d'anciens supporters avec une autre vision du foot, mais j'espère trouver ça, le petit Camara aussi, voir des joueurs qui monte en puissance, qu'on fasse une belle Ligue Europa, et qu'on prenne surtout du plaisir dans les résultats.
Et intéressant, puisqu'on parlait d'Aïd Boudlal, donc c'est la défense centrale, il y a Cresswell quand même, on l'a pas cité, mais c'est quand même un vrai...
D'ailleurs, il y a eu une petite vidéo sympa, hein, Cresswell et Thomasson qui se rencontrent après s'être chauffés sous le maillot respectif de Toulouse et de Lens en fin de saison dernière.
Mais il a raison d'insister là-dessus, c'est un vrai enjeu pour moi du côté du Stade Rennais, avoir des joueurs d'identification, parce qu'on sait à tel point comment c'est important. Il y a eu beaucoup d'instabilité des joueurs qui sont passés, c'est très difficile de s'attacher, donc il faut établir, même si c'est parfois compliqué avec le football, un cycle où tu puisses avoir des joueurs qui sont identifiables.
Ce sera le mot de la fin. Paul, merci beaucoup d'avoir composé le
32-16.
Tu reviens quand tu veux dans l'after. Elton, Flo, merci beaucoup de m'avoir accompagné. L'after, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous même station, même heure demain à partir de 20h avec le retour de la copine Karine Galli. Très belle soirée sur RMC. Salut.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.